Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore ce matin pour vous servir. Comment améliorer les conditions des transports fluviales en République démocratique du Congo? On en parle avec Monsieur Gabriel Mokango, directeur technique à la régie des voies fluviales, RVEF en sigle. Gabriel Mokango, bonjour.
Bonjour Monsieur Jelita Chama, bonjour les auditeurs de Radio Okapi.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Vous voulez participer, vous avez des questions et préoccupations, écrivez-nous à service@radiookapi.net. Postez vos préoccupations sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Bob Landou à la mise en onde, Tati Mapuku assure la réalisation. Marcel Ngomo Mbalakeba à la coordination au micro, c'est Jody Daniel Kachama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien. Okapi. En République démocratique du Congo, on enregistre pas mal des chavirements des bateaux, baleinières et autres embarcations sur le fleuve Congo. Souvent, le bilan est lourd, perte en vies humaines, perte des biens divers tels que les sacs de manioc, des maïs, les porcs, chèvres et autres. D'après les informations reçues, la surcharge de ces unités ainsi que le manque de balisage sont souvent à la base de ces accidents. Comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les conditions des transports sur le fleuve Congo et ses affluents? On en parle aujourd'hui avec Monsieur Gabriel Mokango, directeur technique à la régie des voies fluviales. Monsieur Gabriel Mokango, encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Bien, les accidents sur le fleuve et ses affluents, c'est fréquent dans notre pays. À part les raisons que nous venons de citer, y a-t-il d'autres raisons à la base de ces accidents souvent mortels?
Bon, vous en avez cité le principal, le principal cause des accidents. Mais à cela, on peut ajouter, par exemple, la qualification du personnel navigant et puis l'état mécanique des engins flottants.
Voilà. Donc la plupart des accidents qui surviennent, c'est toujours ces raisons qui sont à la base.
Oui, parce que on peut les catégoriser en trois.
Oui.
Parties, comme vous avez dit, il y a première cause, la qualification du personnel navigant. Et deuxième là, c'est l'état mécanique des engins flottants. Et évidemment, troisième cas, c'est l'état de balisage qui permet le bateau de naviguer en toute sécurité.
Voilà. Et pourquoi chaque année, c'est toujours, on déplore toujours ces genres de situations, on en parle, mais il y a toujours, quelque part, vous allez apprendre, il y a une baleinière qui a chaviré, il y a un bateau qui a coulé avec des dégâts importants. Pourquoi cela est récurrent, fréquent, on n'arrive pas à résoudre ces problèmes?
Oui, sans pour moi faire une statistique exhaustive, mais ce qui est vrai, quand on lit le rapport circonstancié des accidents ou naufrages, généralement c'est la surcharge. Vous savez que chaque constructeur, que ce soit d'automobile ou de bateau, limite la capacité de cet engin. Mais vous allez voir qu'une baleinière de 10-20 tonnes, il charge 50 tonnes. Un bateau qui pousse une barge de 450 ou 500 tonnes va au-delà. Et on ne respecte pas les normes parce que plus le tirant d'eau devient important. Et c'est ce qui l'expose aussi à certains dangereux écueils qui, sur le plan d'eau, ils ne le voient pas. Mais sous eau, vous avez le banc de roche, vous avez le banc de sable, et vous avez des épaves de bateaux qui ont coulé bas. Et effectivement, vous pouvez aussi avoir le tronc d'arbre que nous appelons Sinag. C'est là aussi le manque d'application des instructions relatives à la navigation fluviale. Parce que un commandant titré qui a une formation ne peut pas se laisser contraindre par son armateur quand il trouve que les conditions ne sont pas réunies qu'il puisse appareiller. Il doit refuser. Mais ils acceptent, mais c'est pendant le voyage ou la navigation que les incidents ou accidents surviennent et que nous déplorons tous.
Voilà, donc c'est souvent à cause de la surcharge. Mais pourquoi les responsables, les propriétaires de ces unités font la surcharge alors que la capacité de l'unité ne le permet pas?
Bon, vous voyez, à l'époque, quand la STP, je parle sous contrôle, je ne suis pas de la STP, ex-ONATRA, qui avait le monopole, qui a assuré l'armateur officiel de l'État, il savait respecter tout ça. Et les gens sortaient de l'école de navigation, ils savaient qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais quand on a libéralisé le secteur en 1980, tout le monde est venu. La plupart des opérateurs sont des gens qui ont un peu de moyens, mais parfois ils n'utilisent pas le personnel qualifié pour assurer leur armement. Et ce qui fait qu'ils sont devenus cupides, mercantiles, et ils veulent faire des sous rapidement, sans tenir compte de dommages ou de dangers auxquels ils sont exposés. Donc nous pensons que si les armateurs étaient conscients, sensibilisés, formés dans le secteur qu'ils exploitent, on aurait pu éviter la plupart des incidents que nous déplorons.
On va accueillir les auditeurs. Marc et Mwabilou sont à Lubumbashi. Marc, bonjour. Quelle est votre préoccupation par rapport aux conditions, à l'amélioration des conditions des transports fluviales?
Par rapport à l'amélioration des transports fluviales, ce que je suggère, c'est que l'État congolais doit s'imposer. Parce que toutes les personnes qui font les surcharges, c'est au vide des autorités compétentes. Parce que les maritimes perçoivent de l'argent de toutes les personnes et les laissent se diriger de la sorte. Et quand il y a chavirement, c'est maintenant ils passent aux médias interdire, mais sur le terrain, c'est purement autre. Je dis cela parce que j'ai vécu moi-même ça sur la rivière Luapula. De Luapula, Lac Mouero, de Mouero, Mpueto là-bas.
Qu'est-ce qui s'était passé là-bas?
Les conditions dans lesquelles les gens se mettent dans des bateaux artisanaux. C'est sans sauvetage et tout ça, c'est au vide de nos autorités.
Ouais, vous dites que vous avez vécu ça à Luapula. Qu'est-ce qui s'était passé exactement?
Donc, les conditions dans lesquelles on était, c'est vraiment inhumain. Sans sauvetage, et c'est purement bizarre.
Ah, vous avez voyagé et quitté quelle localité pour aller où?
Quitté Kasenga vers Kole. Kole, c'est sur une île.
Voilà, et racontez-nous concrètement dans quelles conditions vous avez voyagé.
Les conditions dans lesquelles on était, c'est vraiment déplorable parce que là, on était sans sauvetage. Non seulement sans sauvetage, mais aussi, il y avait surchargement de marchandises et aussi de nous qui étions là comme personnes.
Et après, il y a eu accident ou pas?
Non, il n'y a pas eu accident. Sauf que je déplore ça parce que il y avait, dans les années antérieures, il y avait un accident. Moi, j'ai vécu ça, c'est une manière d'interpeller à nos autorités de s'imposer.
Voilà, merci Marc de Lubumbashi. Monsieur Gabriel Mokango, vous avez suivi ce que vient de nous dire Marc. À vous la parole.
Merci. Là, il a soulevé un problème qui est connu de tous, mais c'est vraiment malheureux qu'on assiste à de telles situations. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Vous savez que maintenant, on ne fait pas la part des choses entre les transports de marchandises et de personnes. En principe, les personnes devaient être dans des courriers, des barges, qui ont des cabines appropriées, dans lesquelles on trouve toutes les conditions décentes pour le voyageur. Mais maintenant, on attaque pêle-mêle et le marchandise et les personnes. Parfois, les personnes sont au-dessus de marchandises, hein. Et il faut voir dans quelles conditions ils voyagent et si cela peut prendre une semaine ou au-delà. Donc c'est vraiment la catastrophe.
Mais certains
disent que l'État congolais doit s'imposer. C'est tout à fait vrai.
Oui.
Parce que dans chaque poste, vous avez le commissariat fluvial. Donc au-delà du commissariat fluvial, parfois vous avez la police fluviale et vous avez aussi les marins, hein, les forces navales. Donc, ils doivent faire respecter la loi parce qu'il y a suffisamment de lois sur la navigation fluviale en dehors du code fluvial qui régit le secteur. Donc, il faut le faire respecter. Quand on trouve que les conditions ne sont pas réunies, on ne permet pas un bateau de quitter. Hein, au lieu que le bateau quitte dans ces conditions, ou sur le manifeste, vous avez une dizaine de personnes. Mais quand un accident survient, on dénombre qu'on a ramassé autant de morts, autant de rescapés au-delà. Donc si on applique comme il se doit la loi et les instructions y relatives, et je crois qu'on limiterait rapidement ce nombre de cas que nous déplorons.
Lukobo, bonjour.
Oui, bonjour. Radio Capi, bonjour.
Nous parlons des conditions d'amélioration du transport fluvial. Quelle est votre préoccupation?
En fait, comme je disais tantôt, que c'est l'État qui doit commencer par améliorer d'abord les temps des routes ou les temps de nos fleuves pour que Les amateurs, ce sont des commerçants.
On vous écoute, Moubaké.
Je suis à Kisangani, j'interviens depuis Kisangani. Au fait, de nombreuses pertes en vie humaine qu'on a eu à arriver ces dernières années, à la suite de quoi? De nos moyens de transport effectués, c'est là, à longtemps, quoi, nous allons pas laisser inquiets. Du fait, qu'aurait quoi proposé le gouvernement central, c'est de mettre en place au moins une équipe de supervision qui tiendra compte d'un état des lieux de nos baleinières, de nos bateaux qui ne sont vraiment pas en bon état. Et cela permettrait, à sauver la vie ou les vies des gens, les vies de nos différentes, voilà, connaissances qui continue à tomber année par année.
Bien, merci. Lukobo, vous êtes de retour. Bonjour.
Oui, très bonjour.
Voilà, vous êtes de nouveau en ligne. On vous avait perdu tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'amélioration des conditions des transports fluviaux?
Je disais ceci. L'État doit commencer d'abord par améliorer d'abord l'état des routes, l'état des fleuves. Parce que partout dans le monde entier, c'est l'État qui crée des conditions favorables pour des amateurs. Des amateurs, ce sont des commerçants. Ils n'ont pas de l'argent, ils n'ont pas de moyens pour créer des bonnes routes, pour faire des balisages. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai été une fois à Singapour. J'ai vu comment l'État a créé des routes, il a créé même des fleuves pour créer une bonne affaire, pour que les commerçants puissent faire de bonnes affaires. Mais imaginez-vous ici au Congo.
Mais ici, on n'a pas à créer des fleuves. On a le fleuve Congo qui est là. Bon, c'est peut-être question de... La grande cause des accidents, tel que l'invité l'a dit ici, c'est la surcharge de ces unités, de ces embarcations.
Mais l'État, son rôle, il est dans son rôle, il doit faire son rôle. Il doit d'abord faire d'abord les balisages, tel que les fleuves tel qu'il est là. C'est non balisé. C'est comme ça que ça crée beaucoup d'accidents. Et quand vous parlez, quand on met des surcharges, mais l'État est où? Mon cher, je vous dis, partout l'État, l'État crée des ports, l'État crée des aéroports et il met ça, il donne ça au privé pour gérer ça. Parce que lui-même, d'abord, l'État, c'est un mauvais gestionnaire. Mais si l'État ne fait rien, que voulez-vous que les amateurs font? Ils ne font rien.
Bien.
Donc, pour, comme on dit, fais-moi la bonne politique et moi je te ferai la bonne économie. Les amateurs, ce sont des commerçants. Ils veulent mettre beaucoup de marchandises pour qu'il y ait plus d'entrées, moins de dépenses. Donc, voilà.
Bien. Voilà. Merci. Merci, Lukobo de Kinshasa. César, vous êtes à Ariwara. Bonjour.
Bonjour à la radio Okapi et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent à ce moment. C'est Sol depuis Ariwara.
Quelle est votre préoccupation, César?
Oui, merci pour la parole accordée. Alors, je disais, les voyages par la voie fluviale est d'abord trop risquant. Alors, pour au moins trouver une solution, pour résoudre, n'est-ce pas, les naufrages qui interviennent au cours de ces voyages, il fallait que les agents de l'ordre veillent correctement au surchargement des bateaux. Alors, selon les constats qu'on a tenus de faire, il paraît qu'ils sont souvent corrompus. Ils ont corrompu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, un serré contrôle avant les voyages. Alors, ils ne se rendent pas compte de l'état des conducteurs de ces bateaux-là. C'est-à-dire, question de savoir s'il a déjà pris de l'alcool. C'est ce qui met, n'est-ce pas, comme nous l'avons dit, en danger la vie des passagers. À plus, pendant la crue, il fallait qu'on interdise tout déplacement par la voie fluviale. Merci beaucoup.
Bien, merci. César, depuis Ariwara. Monsieur Gabriel Mokango.
Oui, monsieur le journaliste. Ok, merci. Je réponds à nos auditeurs. Je le remercie pour les questions posées. Ça démontre le souci qu'ils ont pour améliorer les conditions de transport par voie fluviale. Je commencerai par monsieur Moubaké de Kisangani, qui demande que l'État fasse un état de lieu des unités flottantes. Et ici, je voudrais rappeler que en 2012, il y a eu un état de lieu qui a démontré la trilogie que je vous ai citée, qui soit à la base de cet incident ou l'état de naufrage, dont la qualification du personnel, l'état des engins et l'état du balisage. Cette trilogie, après les états de lieu, il y a eu un certain nombre de recommandations qui ont été faites. Et c'est tout à fait normal que les uns et les autres doivent maintenant appliquer ces recommandations pour que nous puissions améliorer les conditions de transport fluvial. Monsieur Lukobo parle que c'est l'État, c'est tout à fait vrai, que c'est l'État propriétaire. Le route, que ce soit terrestre, ferroviaire, fluvial, lacustre et maritime, sont du domaine de l'État. C'est l'État qui doit mettre le moyen pour que ces routes soient dans les bonnes conditions. Et c'est tout à fait vrai que dans le secteur, l'État qui a plusieurs obligations n'arrive plus à dégager suffisamment de moyens. Mais qu'à cela ne tienne, avec le partenaire au développement, on essaye. Et l'État lui-même aussi est en train de voir à l'instar de Fonet les fonds pour l'entretien routier. Est-ce qu'on ne peut pas mettre en place un fonds pour l'entretien de voies navigables? Tout ça pour améliorer. Mais il faut faire la part des choses entre la surcharge et l'état de voies de communication. Parce que ces routes qui sont de vraies infrastructures doivent être entretenues. Mais pour être entretenues, il faut le moyen. Et le moyen, c'est l'État qui dispose des moyens, mais les armateurs aussi qui ont l'obligation de payer à l'État pour lui donner le moyen d'entretenir ces voies.
Monsieur Gabriel, à ce jour, vous disposez de combien de dragues pour l'entretien des voies navigables?
Bon, pour entretenir le voie navigable, on a plusieurs types d'engins. Le plus important, ce sont les baliseurs. Et au moment où je vous parle, nous avons plus de 8 baliseurs. Donc le baliseur, c'est l'unité qui nous permet d'aller poser les signaux et de mouiller les bouées. Bon, le drague, c'est pour aller dans les endroits où nous pensons que les profondeurs sont réduites et que pour ouvrir la voie, il faut approfondir. Et là, on va draguer. Mais à l'état actuel de nos cours d'eau, qui sont exploités à l'état naturel, pour ne pas dire sauvage, nous privilégions le balisage après les études. Donc le cas de dragage n'intervient que vraiment s'il y a nécessité. Sinon, on risque d'interrompre l'équilibre. Et on va amener encore d'autres situations pires que celles que nous avions avant. Donc, la régie, au jour d'aujourd'hui, dispose de tout le moyen technique et les ressources humaines pour pouvoir faire. Mais c'est ça le moyen pour faire une campagne de balisage qui peut chercher à Kisangani ou aller sur la rivière Kassai et autres. Il faut avoir du carburant, avoir des intrants pour fabriquer les signaux. Il faut donner la ration personnelle. Donc ce sont des moyens que l'État doit disponibiliser, mais également les armateurs parce qu'ils doivent payer la taxe de navigation. Bon, il y a M. César qui a parlé qu'il faut un contrôle, que les agents sont corrompus. Ça, c'est de l'éthique. Donc, ça dépend de tout et chacun, là où il est. Mmh. Il est responsable. Il doit veiller à la bonne marche. Parce qu'il ne faut pas que l'État, c'est nous tous, hein. Quand on parle de l'État, c'est nous tous. Mais quand on vous dit que vous êtes chef de poste, vous êtes là-bas pour voir si tel bateau remplit les conditions. Faites votre travail convenablement. Oui. Et si vous le faites avec conscience, je pense que nous irons droit dans le sens de l'amélioration. Et la voie d'eau qui a servi au développement de ce pays à l'époque coloniale, même post-coloniale, et ces voies d'eau qui ont contribué au développement de ces pays, au budget de ces pays, nous devons le sauvegarder. Nous devons faire en sorte que ces voies d'eau soient des voies d'eau de développement et non pas un cimetière où nous déplorons toujours des cas de naufrage. Voilà oui. Ce que nous pouvons dire à ce stade-ci.
Bien, il y a Moubaké Oulkobo qui a dit tout à l'heure que avant qu'une embarcation ne quitte les ports, il y a des conditions à remplir et d'après lui, les armateurs vont corrompre ceux qui sont au commissariat fluvial et bon, ils ferment les yeux, ils font plus le contrôle, même si l'unité est surchargée, on ferme les yeux et on laisse le bateau partir, mettant ainsi en péril les vies de plusieurs personnes.
Bon. Ici, je ne parlerai pas en termes de corruption, hein, parce que je n'ai pas vraiment d'éléments, parce que ce que j'avance doit être vérifié. Mais ce qui est vrai, nous constatons que tel bateau a quitté le port, mais dans des conditions qu'il ne faut pas. Donc, or, il est connu de tous qu'un bateau ne peut pas quitter un port s'il n'a pas un permis de sortie. Les permis de n'est délivré qu'après constat. Le préposé qui est là-bas regarde l'état du bateau, comment on a chargé, quelles sont les personnes qui doivent s'embarquer, parce qu'il a le manifeste, il a la liste d'équipage, c'est à ce moment-là il donne le permis. Donc s'il a fait remettre le permis de manière fantaisiste, donc s'il y a un accident qui survient, c'est lui qui doit être poursuivi parce que l'État se pose. Hein. Donc l'État, qui joue son rôle régalien, doit pouvoir faire la part de choses. Toutes ces brebis galeuses, il faut le mettre hors d'état de nuire si nous voulons réellement améliorer l'état ou les conditions de navigabilité sur le fleuve et ses affluents.
Comment améliorer les conditions des transports fluviales en République démocratique du Congo? On en parle aujourd'hui dans Capit Service avec Gabriel Mokango, directeur technique à la régie des voies fluviales. Des questions et préoccupations, écrivez-nous à service@radiocapi.net. Oh, Capi. Nous accueillons à présent Achille depuis Kananga. Bonjour.
Bonjour. remercier aujourd'hui Daniel Kachama.
Comment améliorer les conditions des transports fluviales? Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus?
Oui, monsieur, je vous dis, moi, j'interviens généralement pour améliorer ce secteur fluvial qui joue un grand rôle dans la survie des Congolais. Il faut d'abord une formation absolument professionnelle, performante des conducteurs, ou je ne sais pas, on les appelle des capitaines, pour une connaissance aussi des codes de conduite maritime. De deux, l'entretien des appareils avant les voyages, visibilité des signaux clairs dans le milieu d'embarquage, et aussi éviter le surtonnage et l'ivresse de ceux qui conduisent. Parce que si aujourd'hui nous voyons plusieurs dégâts sur ce voie, c'est par rapport à l'état d'ivresse ou sur le tonnage des appareils.
Au Capi Service, pour participer à l'émission, 081 890 63 94. Par SMS 081 070 20 50 ou internet service@radiocapi.net.
Fidèles auditeurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Au Capi Service. Nous parlons aujourd'hui de l'amélioration des conditions des transports fluviales et lacustres en République démocratique du Congo. Nous savons qu'on enregistre pas mal des chavirements, des naufrages, des bateaux baleinières et autres embarcations sur le fleuve Congo, sur le Tanganyika, sur le fleuve Kasaï et sur d'autres lacs à travers le pays. Et souvent, le bilan est lourd, perte en vies humaines, perte des biens divers, etc. Et généralement, c'est la surcharge et le manque de balisage qui sont à la base de ces accidents. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les conditions des transports sur le fleuve et les lacs de la République démocratique du Congo? On en parle dans cette émission. Il y a eu quelques propositions. Par exemple, un auditeur a demandé que le gouvernement puisse laisser la gestion des ports au privé, des services maritimes au privé. Et puis, pendant la crue, interdire le voyage. Et puis, entretenir les voies navigables, voilà, autant des propositions des auditeurs par rapport à cela, la formation du personnel navigant, l'entretien des unités, voilà, et le contrôle rigoureux avant que l'embarcation ne quitte le port. Professeur, quelle est votre réaction par rapport à toutes ces propositions des auditeurs?
Très bien, bon, comme vous voyez, chacun essaye de donner ce qu'il a dans le ventre. Mais bon, mais en allant de manière tout à fait systématique. Pour moi, il est clair que le renforcement des capacités et des armateurs et des navigants doit être la première chose à faire. L'entretien de la voie, pour moi, passe avant toute chose comme prioritaire. C'est-à-dire qu'on doit revenir à l'état où les voies navigables étaient lorsque nous étions sous la colonisation belge, pour le dire ainsi. Bon, moi ça ne me gêne pas parce que moi j'ai grandi à l'intérieur du pays et j'ai vu que devant chez moi, sur une toute petite rivière qui est des bateaux qui venaient tout chaque jour, presque. C'est pas les gars qui descendaient, qui redescendaient. Mais aujourd'hui, il n'en est plus rien. Et tous ces ports-là n'existent plus. Et donc, je dis ceci. Si on veut faire quelque chose, commencer à faire quelque chose, il faut d'abord, un, tenir compte des charges qui incombent à ceux qui entretiennent la voie, les voies d'eau. C'est qui, clairement, c'est la RVF et la Congolaise des voies maritimes. Il n'y a que deux entreprises qui s'occupent de l'entretien des voies fluviales. Il n'y en a que deux. Donc il n'y en a pas une multitude. De trois. Lorsqu'on parle de privatiser les ports, c'est bien bon. On en avait privatisé ici tout un tas à Kinshasa. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Fiasco total. Fiasco, indiscipline. Et on ne contrôlait plus rien.
Professeur Serge Pangou, d'après le gouvernement, il y a beaucoup de ports qui fonctionnent dans l'illégalité. Il revient seulement à la SCTP qui a les monopoles dans ces secteurs.
Voilà, justement, je disais ceci. Tous les ports là qu'on a créés en désordre là, mais ils payaient d'abord quoi à l'État? La preuve, c'est que nous déplorons les moyens pour l'entretien de la voie. Si les moyens manquent, c'est que tous ces exploitants ne payent rien à l'État. Et donc, c'est des messieurs qui exploitent les ports, comme vous savez, comme chez nous, on tolère tout. Tout le monde a droit à faire ce qu'il veut. Alors, pour l'instant, mettre d'abord de l'ordre. Si on va privatiser après, que l'État d'abord mette dans l'ordre de l'ordre dans ce qui lui appartient, les voies d'eau sont à l'État. Les entreprises qui exploitent les ports, c'est STP et SNCC dans l'Est là-bas. Et puis, ce sont des entreprises de l'État congolais. Et alors, où est le problème? On commence par, un, trouver les moyens. Ce qui manque, ce sont les moyens. Et je disais, créer un fonds qui puisse soutenir ces secteurs. Ça, c'est la plus grande chose à faire d'abord.
Professeur Serge, oui, si l'Union européenne, les partenaires internationaux ne financent pas, donc il n'y a rien. Alors qu'est-ce qu'on peut faire notre niveau pour mobiliser les fonds afin d'entretenir les voies navigables?
Exactement. Nous devons créer un fonds de la même façon qu'on avait créé le FONER. Si aujourd'hui les routes sont entretenues, c'est parce qu'il y a le FONER. Maintenant qu'on crée, et d'ailleurs, il y a le nouveau programme d'investissement pour la transition écologique et le développement durable, et aussi le plan national eau, hygiène et assainissement, qui ont demandé la création de ce fonds depuis longtemps. Ça fait déjà une année que le plan eau, hygiène et assainissement a été terminé. Mais comme toujours, les décisions ne tombent pas. Mais c'est la seule solution pour autonomiser l'État, à ne pas dépendre des crédits extérieurs. Parce que ces crédits-là, vous savez, si vous vous chamaillez avec quelqu'un aujourd'hui, et demain, il te dit, bon, je te donne plus rien. Et puis, ce qu'il donne, et c'est ce dont on a vraiment besoin. Je pense qu'il faut qu'on mette des mécanismes pour que ces fonds soient implantés. Maintenant, le fonds, je dis, d'entretien de voies fluviales et lacustres en RDC. Comme le FONER. Ainsi, on va mettre dans les différents postes de perception, ce sera aussi des postes de contrôle.
Là, professeur, on pourra... est-ce que déjà les armateurs ne payent pas déjà tous ces taxes ou des fonds, par exemple, ils ne donnent pas des contributions pour l'entretien des voies navigables?
Oh, mais écoutez, est-ce qu'ils donnent ça à où et à en quelle quantité? Et puis, ils peuvent faire la voie pendant une année et ils payent une fois là. Et vous savez, une fois là, et sur la route, quand vous allez à Matadi et vous revenez, vous payez combien de fois? Vous payez une fois, n'est-ce pas? Mmh. Et donc, ça, là-bas, ce sont des forfaits. La loi les autorise parce que vous connaissez qu'ils sont propriétaires d'embarcations. Je ne vous apprends rien. Nous sommes tous des Congolais, hein. C'est-à-dire, de ce côté-là, on a mis une sourdine. Et puis, parce que, après, est-ce que vous savez qu'il était question que le FONER aussi prenne en charge la RBF et la CDM? En dernière minute, au Parlement, on a débarqué les deux entreprises d'entretien des voies fluviales. Et pour quelle cause vous croyez? Parce qu'il y a des mains qui ne veulent pas qu'on voie clair. Parce que moi, j'ai navigué sur le fleuve pendant des jours, en tant qu'expert, évidemment. Je vous dis que ce qui s'y passe est déplorable. Je vous dis qu'il y a des gens, les accidents que vous apprenez, ce sont ceux qu'on voit. Mais tous ceux, il y a des endroits où les fleuves passent, où il y a des rivières qui parcourent 30, 40, 50 kilomètres sans un moindre village. Et si l'accident se passe à cet endroit-là, comment vous saurez? Personne ne saura. Et donc, il y a des âmes qui disparaissent comme ça, sans même écho. Il y en a plusieurs et c'est tous les jours. Oui. Et ne parlons pas des lacs. Et si aujourd'hui, et même les rebelles dont vous entendez parler là, pourquoi ils utilisent là-bas? Parce qu'autour de ces lacs-là, mais c'est la jungle, tout le monde fait ce qu'il veut. Moi, je viens de la Calder, je vous ai dit. Et donc, il faut un fonds propre à l'État, une structure, une institution,
oui,
gérée de manière orthodoxe, pour que l'État ne dépende plus seulement des dons de l'étranger. Parce que comment vous pouvez construire une maison qui sera entretenue par votre voisin? Est-ce que c'est possible?
Non, c'est pas possible.
C'est pas possible.
Bien, professeur Serge, on va accueillir un auditeur, Boukassa, depuis Moueneditou. Et je signale que M. Gabriel Mokango, directeur technique à la régie des voies fluviales, est de nouveau en ligne. Boukassa, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'amélioration des conditions des transports fluviales et lacustres en RDC?
D'abord, le transport fluvial ces derniers temps est tellement dérangé. L'État congolais doit d'abord penser premièrement à instaurer un bon système dans le chef des agents de la ligne maritime. Parce que là-bas, les signalements n'est pas amélioré. Et les agents eux-mêmes qui sont là-bas, ils se laissent corrompre par les voyageurs et aussi par les transporteurs. Les tonnages est tellement excédé. Il y a l'excès de tonnage. Il y a le tonnage qui est déjà prévu par l'État ou par la loi. Mais maintenant, ces gens-là excèdent l'État. Il y a le surtonnage. L'État doit veiller à ce que ces gens-là arrivent à bien arranger ou à bien contrôler les tonnages qui est récupéré par les transporteurs. Mmh. C'est ce que je voulais vous dire.
Merci.
Surtout les tonnages.
Surtout les tonnages, oui, oui.
Ouais.
Merci,
ouais.
Monsieur Boukassa. Monsieur Gabriel Mokango, vous êtes de nouveau en ligne. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cet auditeur?
Bon, je ne sais pas. Je réponds d'abord aux autres, là, monsieur Achille, au fait de Kitangani, avant de citer monsieur Boukassa.
Oui.
Et prendre aussi le propos de professeur Serge Bangou. Améliorer la formation du personnel, oui. Donc, les gens doivent passer à l'école. Nous avons un centre, l'ancienne école de navigation, qui appartenait à l'ex-Lonatra. Il y a des formations qui sont dispensées, théoriques, mais on peut aussi recycler le personnel. Vous savez, quelqu'un qui est resté sur la touche pendant longtemps, il faut le recycler. En Europe, il y a des simulateurs, que ce soit pour du côté aérien ou du côté de navigation. Vous devez être recyclé pour vous mettre à niveau. Et il a parlé que l'État doit être regardant. C'est tout à fait vrai. Ça dépend de l'État. C'est comme ça que l'État doit mobiliser le moyen à mettre à la disposition de la RVF pour assurer l'amélioration des conditions de navigabilité de nos cours d'eau. Bon, il a parlé que lui préfère l'aérien. Bon, c'est son point de vue, je lui concède, mais vous devez savoir que les transports aériens n'est pas accessible à tout le monde compte tenu du revenu de la population. Et dans le cadre qui nous concerne, c'est par voie fluviale qu'on peut transporter des gros volumes de marchandises. Mais le grand problème ici, pour aborder M. Bofete qui a fait le voyage de Boende à Kinshasa, moi-même je l'ai déjà fait plusieurs fois.
Boende Mbandaka et Mbandaka à Kinshasa.
Oui. C'est pour dire que le problème qu'il a soulevé ne se limite pas seulement au problème de balisage. Je sais très bien qu'il y a longtemps que nous avons balisé la rivière Rukibushira-Tchopa. Mais le grand problème aussi, quel est le moyen de transport qui va là-bas? Depuis l'année, je crois bien, 1990, l'ONATRA n'organise plus le transport sur ce voie secondaire. À l'époque, il y avait un bateau courrier tous les 15 jours qui allait là-bas. Mais maintenant, il n'y a rien. Ils prennent des embarcations de fortune. Heureusement, lui, il a pris une baleinière où on a attaché les hommes et les bêtes et les marchandises. Mais il y a des gens qui viennent avec des catamarans. Donc, on prend deux pirogues, on met une plateforme, et mais c'est avec ça qu'ils descendent à leur risque et péril. Tout le monde qui a navigué sur la Tchopa sait qu'elle est sinueuse. Donc, à la descente, vous pouvez sortir ou chavirer, donc on déplore toujours des pertes. Mais moi, je pense, pour améliorer les conditions, il faudra que l'État soit regardant dans ce sens que doter la SCTP des embarcations qui peuvent assurer aussi ou desservir ces voies secondaires ou les lignes secondaires. Comme ça, ils pourront voyager dans les meilleures conditions.
Ben, on a vu dernièrement, il y avait la réparation d'une unité de la SCPT qui a fait le voyage jusqu'à Kisangani. On a fait beaucoup de bruit dans les médias et après il n'y a plus rien.
Oui, l'ITB Kokolo, que ce soit le MS Bungu, ne peuvent aller que sur le ligne principale, le fleuve et la rivière Kasai. Mais si vous envoyez ça sur la route qui vous sera, ça ne pourra pas. Donc il faut des embarcations de petits gabarits. Et à l'époque déjà, l'ONATRA savait organiser un système de transport. Vous arrivez en Bandaka, vous débarquez et vous prenez maintenant de petites embarcations qui sont appropriées. Vous devez savoir que dans la construction, on s'habitue à la nature. Quelles sont les caractéristiques de ces cours d'eau, et à ce moment-là, on construit l'unité qui répond à ces caractéristiques pour ne pas avoir beaucoup de problèmes. Donc, tant qu'il n'y aura pas des unités spécifiques pour faire ces transports, comme jadis, donc ils vont se livrer à des pirogues, à des baleinières, et à ce moment-là, on ne peut pas parler de meilleures conditions, parce que quelqu'un qui est au-dessus de marchandises, la nuit, et sous le sommeil, il peut se retrouver, il tombe dans l'eau.
Il peut se retrouver dans l'eau. Oui, monsieur Gabriel, On va accueillir Gabriel de Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour Radio Capi. C'est monsieur Gabriel Kombe de Kinshasa.
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour améliorer les conditions des transports fluviaux et lacustres?
À mon avis, personnellement, je pense que pour améliorer les conditions des transports sur la voie fluviale du fleuve Congo, il faudrait avant tout que le gouvernement congolais puisse s'impliquer lui-même à pouvoir faire que le respect des normes de navigation soit mis en pratique. Ensuite, les agents doivent mettre un accent sur le surchargement de ces bateaux. Car nous sommes en train de remarquer qu'il se pose un problème de contrôle dans notre pays. Ou à l'aise dans le port, les gens voyagent entassés. On se demande, bon, apparemment, c'est comme s'il n'y a pas un nombre limité de passagers. Il n'y a pas un nombre limité de passagers. Et pour clore, je dirais, le gouvernement doit aussi assurer à mettre les signaux dans le lieu dangereux. Moi, je voyageais, je suis de la Tchopa. Hein. Je fais des voyages, je voyageais des Kinshasa en Bandaka, c'est catastrophe. Allez-y voir les conditions dans lesquelles les Congolais voyagent.
Vous avez voyagé à bord de quelle unité?
À bord de bateau. Oui, de bateau. De baleinières, ainsi que de gap, là. Je voyageais, je fais au moins 5 à 6 voyages de Kinshasa en Bandaka. Mais allez-y voir les conditions dans lesquelles les gens se déplacent. Les Congolais voyagent, mais c'est compliqué. C'est catastrophe. Vous allez même pleurer. Il n'y a pas un nombre limité de passagers dans chaque bateau, soit chaque baleinière. Les conditions ne sont pas du tout respectées. Et la question que je vais vous poser, j'aimerais savoir pourquoi le gouvernement ne peut-il pas mettre de l'ordre à la voie fluviale.
Bien, merci beaucoup, monsieur Gabriel de Kinshasa. Monsieur Gabriel Mokango, avant de répondre à Gabriel de Kinshasa, professeur Serge Pangou avait dit tout à l'heure, il plaide pour la création d'un fonds spécial d'entretien des voies navigables. Parce que ça, d'après lui, ça c'est vraiment l'essentiel. Vous avez reçu dernièrement l'appui de l'Union européenne. Vous avez aujourd'hui des baliseurs et des canaux. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a déjà amélioration par rapport à l'entretien des voies navigables avec ce que vous avez reçu de la part de l'Union européenne?
Ok, merci. Pour aborder l'idée du professeur, nous attendons ça. Vous savez que nous étions en projet avec l'Union européenne, que ce soit la Banque mondiale. Mais un projet a une durée de vie, mais après le projet. Donc il faudra que l'État disponibilise le moyen à travers des structures pérennes. C'est là où je rejoins le professeur Pangou quand il dit qu'il faut la création d'un fonds d'attraité de voies navigables, à l'instar de Foner qui s'occupe de voies, de routes terrestres. Donc, c'est impératif. Parce que, aujourd'hui, nous avons balisé. Mais s'il n'y a pas de moyens qui suivent. Or, si on met en place ces fonds, si nous disons que nous devons aller citer tel cours d'eau, nous présentons notre état de besoin, on évalue, on nous donne le moyen, nous allons intervenir sur ces tronçons. Donc, ce fonds qui sera géré par la structure que l'État va mettre en place donnera une bouffée d'oxygène à la RVF et à ce moment-là, la RVF sera présente sur le réseau fluvial. Mais pour le moment que le projet a pris fin, tout le monde sait qu'après le projet, qu'est-ce qui arrive? Parce que nous avons assisté hier à une communication à l'INIQIM où on a dit la consolidation des acquis. Après le projet, qu'est-ce qui est mis en place? Nous avons toujours l'expérience malheureuse avec POC, avec... Mais juste après le projet, plus rien. Mais si l'État avait mis en place un fonds qui pourrait prendre la charge et continuer, à ce moment-là, nous nous aurons respect. Donc, la création de ce fonds, et nous attendons ça, nous tous, pour qu'à ce moment-là, nous puissions réellement parler effectivement de l'amélioration des conditions.
Bien. Professeur Serge Pangou, est-ce qu'on a aujourd'hui une cartographie des zones les plus dangereuses, les zones rocheuses sur nos cours d'eau?
Bien. Je salue le directeur Mokango de la RVF. Il est d'ailleurs de loin mieux placé que moi pour répondre à la question. Que je sache, bon, sur le Kasaï et sur le fleuve Congo, on a renouvelé l'album de navigation depuis le projet PANAV, qui vient de se terminer, il vient de vous le dire. D'ailleurs, rien n'est fait, rien du tout. Rien du tout, rien du tout. C'est-à-dire, si vous prenez, allez, c'est pas difficile à calculer, 1734 kilomètres Kinshasa-Kisangani, c'est fait. 650 kilomètres Kouamout-Ilebo, c'est fait. Quand tu fais l'addition, nous sommes environ de 1800 et quelques. 1800 sur 25, sur 15 000, vous vous rendez compte, ça fait 10%. Ça fait 10% de ce qu'on connaît, de ce qu'on a cartographié. Et le reste, rien n'est fait, rien. Et donc, ce fonds est très nécessaire. Et d'ailleurs, je voulais ajouter, maintenant qu'il y a des partenaires qui donnaient autrefois de l'argent à la RVF, la Banque mondiale, tout ça, c'est des prêts, évidemment, ou des dons, je sais pas, qu'on donnait à la RVF de manière tout à fait ponctuelle. Mais si cette structure existe, mais les bailleurs de bilatéraux et tout ça, nos partenaires, pourront soutenir ce fonds. Donc le problème, ce n'est pas combien il va engranger dans ses activités, mais les bailleurs de fonds pourront les soutenir. Au moins, on aura une autorité qui canalise tous les efforts des bailleurs et de l'État pour entretenir ces voies. Vous voyez que c'est difficile. Donc, la cartographie, comme vous dites, c'est même ça l'état des lieux des voies navigables. Ce n'a jamais été fait. Jamais. On a fait seulement Kisangani, puis on a fait
la rivière Kasaï.
Kouamout, il est beau. Mais ailleurs, on a fait quoi? Rien. On a fait que ces deux albums-là, c'est tout.
Voilà, il y a quelques petits soucis. Je reviens à vous tout à l'heure. Monsieur Gabriel Mokango, vous avez la parole. Un instant, on va accueillir un auditeur, Théophile Lokake, de Kinshasa. Bonjour Théophile.
Ouais, bonjour Radio Capi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour améliorer les conditions des transports fluviales et lacustres en RDC?
Oui, j'ai à vous dire, j'ai aussi des petites questions à demander.
Oui.
À mon avis, les plus humbles, nous demandons premièrement aux agents de l'ordre de veiller correctement au chargement des bateaux. Et en plus, les contrôles des commandants, s'ils prennent de l'alcool avant le décollage des bateaux, parce que c'est ça le problème vraiment qui provoque les morts des Congolais. Deuxièmement, l'État congolais doit soutenir ce transport de la voie fluviale qui est bien et bien négligé pendant plusieurs années. Et pour clore, j'ai deux questions. La première est celle-ci. Pourquoi d'autres pays soutiennent la voie fluviale? Pourquoi pas la République démocratique du Congo? Deuxième question. Pourquoi nos dirigeants négligent-ils cette voie fluviale? C'est vraiment trop dangereux. Nous voulons que le gouvernement congolais prenne en charge tous ces problèmes. Vraiment, les Congolais souffrent beaucoup. Merci beaucoup.
Bien. Monsieur Gabriel Mokango, vous avez la parole.
Ok. Merci bien, monsieur le journaliste. Donc, vous comprendrez que, comme a dit le professeur Pangou, sur les 15 000 kilomètres, le réseau que la RVF doit entretenir, avec l'appui financier et technique de partenaires, nous étions seulement à 2400 kilomètres. Donc le fleuve et la rivière Kissa et Kassai, qui sont le cours d'eau de première catégorie. Et ça, c'est le bailleur qui oriente, il dit que moi, je vous appuie pour telle voie. Mais nous sommes souverains, nous sommes indépendants, la RDC, nous savons que nous avons 15 000. Et quand vous regardez la carte hydrographique, vous allez constater qu'au moins les trois quarts du territoire est drainé par le cours d'eau. Surtout dans le grand équateur. Donc c'est par voie d'eau qu'on peut évacuer, par voie d'eau on peut assurer aussi le transport, les échanges commerciaux, mais l'accès aussi à des infrastructures sociale de base.
Monsieur Gabriel, qu'en est-il du lac Kivu, lac Tanganyika, le lac Albert et Édouard?
Oui, vous devez savoir que le lac sort de mer intérieure. Nous ne les balisons pas de la même façon que le rivière qui sort de le cours d'eau intérieur. Par exemple, sur le lac Tanganyika, les gens qui y ont voyagé, on vit que nous avons fait un balisage lumineux au niveau du port de Kalemie et de Kalundu, où il y a un fait d'atterrage qui a fait le bateau à plus de 20 km. Et dès que le bateau s'approche, à 5 km, il y a des bouées lumineuses de direction qui permettent au bateau d'avoir accès au port. Mais il faut étendre ça sur le lac Mouero, sur le lac Édouard et sur le lac Albert. Mais nous n'avons pas encore ça parce que on ne va pas aller mettre des signaux de rive ou mouiller de bouées là-bas. Donc il faut que l'État donne le moyen pour que nous puissions faire ce balisage spécifique sur les voies lacustres. Mais jusque-là, nous n'avons pas. Mais nous pensons que si on crée un fonds, nous n'aurons plus de raison pour dire que nous n'y allons pas. Donc il faut le moyen. Mais quand on parle qu'il faut mettre de l'ordre, le loi existe, les arrêtés existent. Mais c'est question d'application. Tout le monde sait qu'un bateau, pour partir, on regarde les documents de bord. Les personnes qui sont embarquées, l'armateur a une assurance, a souscrit une police d'assurance que je ne transporterai que 20 personnes. Comme ça, en cas d'accident, on se assure ces gens-là. Mais au lieu de 20, vous retrouvez 200, 300. Parce qu'il faut dire que quand un bateau quitte le port ici, mais c'est un village flottant. C'est tous les bateaux qui vont à l'équateur, excusez-moi. Mais vous voyez la population qui se déplace.
Est-ce que tous les passagers se retrouvent sur le manifeste?
Non. Et c'est même paysan, il embarque. Là où il est, à quoi c'est, il prend. Donc, au départ de Kinshasa, quand bien même s'il a respecté, il a transporté 30, mon fur et à mesure, il le remonte pour atteindre Kisangani. Il y a de ceux qui débarquent, qui embarquent. Donc, à ce moment-là, on n'a plus de suivi. Hein. C'est là où on trouve qu'il y a excès de personnes qui sont embarquées à bord, même pour des marchandises. Et les normes dont on a parlé, les normes existent. On dit quand vous chargez les bateaux, vous ne pouvez pas atteindre ce qu'on appelle les frabords. Les gens qui sont dans la construction navale le savent. Mais les gens touchent les frabords, donc vous êtes à bord, vous mettez votre doigt, vous touchez l'eau. En ce moment-là, depuis un mauvais temps, le bateau ne sait plus respirer parce que vous n'avez pas la marge de flottabilité. Donc, c'est facile pour le bateau de piquer de poids et de couler. Donc, il faut une marge pour que, même s'il y a un mauvais vent, le bateau a une marge de flottabilité. Mais ces normes existent, mais sauf que les gens ne le respectent pas. Mais il y a des gens qui sont engagés et mis en poste pour pouvoir suivre et faire respecter ces normes-là. Il va de la conscience de tout le monde.
Oui.
Pour que nous puissions ne plus enregistrer le cas dont nous parlons. Mais dans tous les cas, le voyage par voie fluviale est plus rentable et ce voyage-là permet de faire évacuer des volumes importants de marchandises. Mais ici, je mérite ma présentation pour dire que les armateurs privés, et ils n'ont pas intérêt parce que le transport de personnes ne rapporte pas. Lui, il veut stabiliser son investissement. Il veut transporter le fret en termes de cargaison. Donc, il préfère avoir de marchandises que de personnes qui payent moins. Mais c'est ça qu'il y a dans le domaine de mettre en place des unités pour les personnes qui se fichent l'époque pour que les gens naviguent dans les conditions. C'est ça que nous verrons que l'État propriétaire doit être regardant, les droits propriétaires doivent privilégier les voies d'eau par rapport aux autres voies, parce qu'il est indéniable, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est prouvé par toutes les études, que l'entretien des voies d'eau est moins onéré, l'entretien des voies d'eau ne coûte pas et ne pollue pas comme les autres voies, et que c'est par voie d'eau on peut transporter. Par exemple, je vous donne un exemple. Hier, le prof Pang vous dit que le bateau Kokolo, s'il charge au maximum, le marchandise est transporté pour le mettre sur le véhicule, il faut 500 véhicules. Vous voyez, quand vous alignez un convoi de 500, qu'est-ce que ça vous fait? Donc, alors que par voie d'eau, ça vient d'un seul coup à bord d'un bateau jusqu'au port, nous avons des engins de manutention et d'élevage, on le décharge rapidement. Donc nous avons intérêt de regarder dans ce sens, de privilégier ces voies pour améliorer les transports par voie fluviale.
Bien, il n'est plus en ligne. Comment améliorer les conditions du transport fluvial et lacustre? En RDC, des questions et préoccupations, appelez-nous au 0. Non, n'appelez pas, écrivez-nous à service@radiocapi.net. Professeur Serge Pangou, un auditeur Théophile de Lokake de Kinshasa vient d'appeler. Il attribue les accidents parfois à l'ivrognerie de certains capitaines, des conducteurs de ces embarcations qui prennent de l'alcool avant de naviguer.
Ah bien, ça il a beaucoup d'imagination, parce que je ne sais pas où est-ce qu'il est dans le livre. J'ai beaucoup navigué, mais bon... ces messieurs-là sont quand même des messieurs, ça ce sont des défauts qui ne manquent pas dans chaque métier. Il y a des ministres qui prennent de l'alcool, il y a des footballeurs qui prennent de l'alcool, on ne va pas tabler toute une législation pour ça. C'est de l'inconscience, comme disait tout à l'heure le directeur technique de la RBF. C'est-à-dire que la conscience, elle, c'est autre chose. Ça, c'est question de déontologie, ça, c'est facile. Et en plus, si on contrôlait déjà à l'embarquement, qu'est-ce qu'on allait faire? Mais on allait détecter que lui a bu de l'alcool et on ne le laissait pas partir. Et donc, c'est ça. Moi, je trouve, pour renchérir un peu, ça, c'est des causes vraiment très minimes. Les causes d'accident, c'est l'état de la voie et l'état des embarcations. Moi, je trouve que c'est le principal. Mais aussi, dans une certaine mesure, le manque des compétences des navigants. Et donc, il y a
trois grands axes qu'il faille d'ici par quatre. Il faut, un, mettre sur pied un fonds qui puisse contrôler et prendre en charge les coûts de l'entretien de voies fluviales et la puce. Deux, doter des moyens techniques, matériels, techniques et humains aux entreprises qui s'occupent de l'entretien. Et trois, créer ou pérenniser les établissements qui forment les personnels navigants. Et six, entretenir les embarcations. Et comme on a dit, il est vrai aussi, ça on ne le dit pas assez, si aujourd'hui aussi la RVF n'a pas beaucoup de moyens, mais qui est, regardez dans l'histoire, qui était le grand client de la RVF? C'est la SNCC, c'est STP, parce que c'est eux les grands armateurs.
Professeur, professeur, est-ce qu'on peut aujourd'hui affirmer que si la STP réhabilitait ses unités telles que l'ITB Kokolo, d'ailleurs qui a été réhabilité dernièrement, on a dépensé autour de 3 à 4 millions de dollars américains, mais après il n'y a plus rien.
Non, mais c'était pas ça l'urgent. C'est ça justement le mal. C'est que au lieu de commencer par les urgences, on commence par la fin. Ça c'est pour des buts tout à fait politiques. C'est déjà quelque chose que c'est une unité qui est là, elle est en bon état, bravo. On en a fait d'autres, je crois aussi. Et la RVF, avec le projet, on a retapé presque tous les baliseurs. C'est aussi quelque chose. Ils ont même des chalands, c'est-à-dire des bateaux, comme je dirais, de guest flottants, qui peuvent aller déplacer en grand monde, les loger dans de bonnes conditions en temps de travail comme de balisage ou de dragage. La RVF aussi a ça. Mais je dis, maintenant le problème, le vrai, c'est lequel? C'est que, comme a dit M. Mokango, lorsque les bateaux là qui viennent à Kinshasa, que viennent faire tout ce monde qui vient à Kinshasa? Ils viennent acheter des produits manufacturés pour les amener dans l'arrière-pays. Or, à l'époque, qui faisait ça? Ce sont les commerçants, notamment les Portugais, tout ça. Ils venaient, ils descendaient avec les produits agricoles à Kinshasa, et ils remontaient avec les produits manufacturés dans l'arrière-pays. Et donc, les unités flottantes étaient chargées au départ comme à l'arrivée.
Professeur, c'est-à-dire, on peut dire qu'il y a une grande activité économique sur
le fleuve. Exactement. Une très grande activité parce que, regardez, aujourd'hui, les bateaux, quand ils montent, il est presque vide, il n'y a que les gens dedans. Il n'y a pas de marchandises qui vaillent dedans. Et ça, c'est un manque à gagner. Ça ne peut pas être rentable. Parce qu'il faut le fret, comme j'ai dit. Et comme vient de le dire, j'ai toujours dit aux gens, au lieu d'utiliser une unité flottante qui vous prend peut-être une semaine pour arriver quelque part, vous devez utiliser 300 camions pour ne jamais arriver d'ailleurs. Comment vous faites pour partir de Kinshasa jusqu'à Kisangani en véhicule chargé de marchandises? Et 300 camions, c'est pas quelle route ça passe? Ça n'existe pas. Le monsieur qui a parlé de fret aérien, mais il blague. Mais ça coûte combien le fret aérien? Ça coûte très cher et ça, ce n'est pas praticable. Ce n'est pas avec ça qu'on développe un pays. C'est un mode de transport de luxe. C'est pour des businessmen, c'est pour des gens qui font des grands bénéfices. Ce n'est pas pour les gens qui veulent développer le monde rural. Ça ne passera jamais.
Professeur Serge, on va accueillir Jérôme de Lubumbashi. Bonjour Jérôme.
Bonjour Radio Kapi, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la Radio de la Paix.
Quelle est votre question?
En tout cas, merci beaucoup pour pouvoir sélectionner mon commentaire sur Facebook. Moi, je dirais ceci. Nous avons connu beaucoup de cas de naufrage pour les transports fluviaux et la Kisr. Cela est dit à quoi? L'État
n'est pas là. Puisque nous voyons, quelque part, au départ, les baleinières rechargées, arrivaient, je ne sais pas, en cours de route, et les prix se rechargeaient. Et ce qui cause beaucoup de morts d'hommes. Moi, je suis natif d'un territoire qui est à bord du fleuve Congo. Je suis natif de Maniema. J'ai grandi à Congolo avant que je vienne à Lubumbashi pour suivre mes études. J'ai voyé, même récemment ici, il y a beaucoup, beaucoup de morts. Pourquoi? On charge et la marchandise et les hommes dans les mêmes bateaux qui naviguent. Et quelles sont les conditions de navigation? C'est ce qui pose problème. Aujourd'hui, ce que nous déplorons, c'est juste l'absence de l'État, monsieur le journaliste. Si l'État, au lieu de percevoir les taxes, allait s'intéresser beaucoup plus à la population qui paye les taxes, allait être strict. Moi, je vous donne un cas d'espèce. Je suis quitté mon territoire de Congo pour Lubumbashi à bord d'un bateau. Nous avons quitté les ports, là où il y a tous les bureaux, tous les services de transport, tout là-bas, l'État là-bas. Nous sommes quittés là-bas, ils ont mal chargé les bateaux, donc moi-même j'avais peur de partir à bord de ces bateaux-là.
Vous avez quitté quel port?
Nous avons quitté les ports de Congolo, les bateaux bien chargés,
d'accord.
Les ports là où il y a tous les services de l'État en train de percevoir les taxes. Mmh. Nous sommes quittés là-bas, les bateaux se noyaient toujours au niveau du port. C'était tellement surchargé. Et nous sommes quittés là-bas, en présence de tous les services. Nous avons remonté les fleuves, arrivé en Koro. On a chargé encore les mêmes bateaux-là, jusqu'à ce que nous sommes arrivés à Bukama, où il y avait les services de migration, de transport et tous les autres services là-bas pour nous accueillir. Rien n'était fait pour punir les armateurs. Et se plaignent pourquoi? Ils se plaignent sur la multiplicité des taxes. Ils disent s'ils chargeaient les bateaux normalement, ils n'auraient pu récupérer l'argent qu'ils sont en train de gaspiller. Dans ces cas, ils doivent aussi s'y recharger, dépasser même les poids requis les bateaux.
Pour récupérer leur argent. Ouais.
Oui, voilà pourquoi aujourd'hui nous nous sommes retrouvés dans cet état où nous sommes. Il y a des morts partout, on entend du côté Kisangani dont notre invité vient de parler. Nous entendons du côté du lac Kivu là-bas, sans oublier notre BF ici, navigable de Bukama, Congolo. Les gens meurent, on dirait qu'il y a l'absence totale de l'État, monsieur Juer. Alors, je demanderai à l'invité de nous expliquer. Elles ne sont là que pour récupérer l'argent des contribuables congolais ou ils sont là aussi pour assurer les paisibles citoyens?
Bien, dans merci.
Ces cas, ah oui, en tout cas, moi je suis là.
Merci, Jérôme.
Avec des.
Merci beaucoup. Professeur, Monsieur Gabriel Bokango, voilà, Jérôme revient toujours au même problème. La surcharge, voilà, il y a beaucoup de services de l'État au niveau du port qui exigent, il y a pas mal de taxes et les armateurs sont obligés de surcharger pour récupérer quand même les frais qu'ils ont dépensés dans les taxes et autres redevances.
Oui, bon, ils ont soulevé des cas patents qui sont réels et qu'on vit tous les jours au niveau de port, au départ et à l'arrivée de bateaux. Comme j'ai dit, c'est cas de conscience pour tout et chacun. Parce que le secteur est monté, il y a deux lois qui sont claires. Et si chacun y mettait un peu du sérieux, on pourrait éviter tout ça. Et vous devez savoir, on a parlé ici d'état d'ivresse. Bon, le prof a dit que c'est un cas bénin. Mais le code du fluvial et l'acquis prévoit dans le barème des sanctions, quelqu'un, personnel navigant, ne peut pas être en état d'ivresse. C'est écrit, et la sanction est prévue. Donc, quelqu'un qui, pendant son quart, il ne peut pas être en état d'ivresse.
Il semble que certains personnels navigants prennent de l'alcool pour affronter les risques qu'il y a sur la voie fluviale ou lacustre.
Oui, je ne suis pas médecin, mais je crois qu'il me rejoindrait que plus vous êtes sous l'état d'ébriété, vous perdez le réflexe. Vous pour savoir est-ce que je dois passer à droite ou à gauche de ce signal. Je disais que l'état d'ivresse est prohibé, hein, parce que on manque de réflexe, on ne sait pas. On peut confondre les signaux et amener les accidents. Mais il y a aussi un problème dont on a parlé. L'État qui est responsable doit revoir tout ça et mettre de l'ordre dans la maison pour que nous puissions arriver à améliorer les conditions de transport fluvial. Mais également les armateurs, ils doivent être conscients.
Monsieur Gabriel, si aujourd'hui la SCTP mettait en service toutes les unités qu'elle a aujourd'hui, je pense que ça pourra aussi contribuer à réduire le nombre des accidents dans des embarcations des fortunes.
Oui, parce que à l'époque où il y avait la SCTP desservait toutes ces voies, ok, je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'accidents, mais les gens voyageaient dans les meilleures conditions. Demandez à ceux qui ont pris les bateaux courriers de Kinshasa à Kisangani, mais c'était le confort. Hein? Je vous donne un exemple bénin. On dit qu'à bord d'une unité, si vous avez 6 personnes, ils doivent avoir le latrine ou les toilettes pour eux. Mais allez voir là où on transporte 200, 300 personnes. Mais il n'y a qu'une toilette et une douche. Posez-vous la question, comment ces gens-là font pendant tout le trajet, hein? Donc, les conditions ne sont pas réunies. Quelqu'un dit ici, mais dans la position où vous êtes, vous ne bougez pas, à moins que vous fassiez une escale de nuit. Mmh. Et les armateurs savent aussi que le bateau, après 5 ans, il doit aller en cale sèche. Le bateau doit monter sur un plan incliné qu'on voit l'état de la coque. Vous savez que nos eaux, quand bien même ce n'est pas salé, mais on trouve quand même du sel dessous. Ça corrode la tôle navale. Donc, il faut qu'on voit si on a mis une tôle de 6 mm, est-ce que maintenant le pressier est de combien? On peut faire un carénage partiel comme un carénage total, mais ils ne le font pas.
D'accord.
Quand vous regardez la plupart des bateaux que nous avons ici, il n'y a que des bâtardos. Quand je dis bâtardos, c'est qu'ils ont mis du ciment pour colmater le brèche. Mais on ne peut pas, parce que dès qu'ils touchent un tronc d'arbre,
c'est
il
fini.
Y a une infiltration, le bateau coule.
Ou soit donc, assis, s'il arrive à cogner, il y a des zones rocheuses, le bateau peut cogner, c'est cogner dessus. Et
oui,
puis...
le prof a dit, sur le fleuve Congo et la rivière Kasai, nous avons fait un bataillage fixe, parce que ces roches sont statiques, ne bougent pas, donc leur position est conduite, nous avons signalisé. Moi qui ai vandalisme, le genre et donc pour en faire d'autres usages. Mais
bien.
Sur les autres cours,
oui.
Il y a aussi besoin de faire la dimension.
Bien, merci Monsieur Gabriel. On va conclure avec Monsieur Serge, Professeur Serge Pang, géographe et hydrologue. Professeur, pour terminer, on retient d'après vous qu'il faut, ce qui est urgent, c'est la mise en place d'un fonds d'entretien des voies navigables. Si les voies navigables sont bien entretenues, il y aura moins d'accidents.
Exact.
Voilà. Et à part cela, il y a autre chose qu'il faut faire pour améliorer les conditions de voyage.
Oui, évidemment, aussi. Que la STP puisse se réveiller de son long sommeil, parce que maintenant qu'on lui a donné, disons pour l'instant, que le monopole court encore, mais on ne voit pas, ça ne bouge pas non plus. Mais c'est-à-dire, c'est toujours... parce que maintenant, on va dire quoi? Qu'il n'y a plus de concurrents, donc. Parce que il faut que la STP, la SNCC, et aussi mettre la main à la pâte pour qu'il puisse se remettre debout. Pour que les conditions soient réunies, pour que... Et puis, il faut, on a oublié aussi un acteur important, il faut que la FEC aussi essaye de bousculer ses membres pour que tous ces centres commerciaux abandonnés à l'intérieur soient réactivés. Il faut qu'on donne des facilités
à ceux qui veulent aller investir dans l'arrière-pays, créer des magasins, des surfaces de commerce où les gens peuvent s'achalander en intrants agricoles, en matériaux de construction, et etc., etc., en vêtements, en médicaments, tout ça, comme c'était dans le temps. Et alors là, les chargements viendront. Les chargements viendront. C'est-à-dire qu'il faille qu'on crée d'abord urgentement ces fonds, ensuite qu'on arrête toute une stratégie de lancement de ce secteur et qui a fait la fierté nationale dans, quand nous étions encore des jeunes. Voilà.
Bien, professeur Serge Pangou, géographe et hydrologue, nous vous disons merci. Et merci également à monsieur Gabriel Mukango, directeur technique à la régie des voies fluviales. Merci d'avoir participé à cette émission. À la prochaine.
À la prochaine. Merci, Jean-Louis.
Au Capi Service.
Au Capi, Radio Capi.
Le conseil du jour.
Le sucre agit de manière très efficace sur la conservation des fleurs. Il suffit d'en ajouter une pincée dans l'eau pour nourrir les tiges et leur éviter de se décomposer. Au bout du 7e jour, vos fleurs devraient être complètement épanouies et durer encore quelque temps. Le charbon noir marche aussi pour les fleurs. Placez-en un petit carré dans votre vase et cela empêchera l'eau de croupir. C'est une astuce pratique quand on oublie d'échanger l'eau des fleurs. Pour conserver ces fleurs plus longtemps, il est aussi recommandé de couper leurs tiges en billets d'environ 1 ou 2 cm tous les 2 jours. Une opération qui permettra à la sève de mieux circuler et à vos fleurs de rallonger leur espérance de vie. Vous pouvez aussi placer vos fleurs naturelles au frigo dans leur vase avant d'aller dormir. Grâce à l'action du froid, elles absorberont mieux l'eau. Une astuce de grand-mère qui fait aussi ses preuves, c'est les bicarbonates des soudes. Comme pour les sucres, une seule pincée suffit pour que les fleurs tiennent au moins 10 jours. Pour que les résultats soient au rendez-vous, pensez à bien diluer les produits dans l'eau avant d'y placer vos fleurs. L'eau de Javel est aussi connue pour ralentir la prolifération des bactéries et la décomposition des fleurs coupées, mais elle doit être utilisée dans une moindre mesure. Au-delà d'une ou deux gouttes, vous risqueriez d'intoxiquer vos fleurs. N'oubliez pas que les premiers gestes sont également très importants lorsqu'il s'agit de conserver ces fleurs coupées. Utilisez un vase bien propre et assurez-vous que l'eau est à température ambiante et non glacée.
Ça c'est bon, ça j'adore. Et même à Kosso na Bruxelles, Roger Zabana Hollande, garçon la paix. Oyo qui a moya bien, et maman, Roger Meya,
Oti Santé aimé, tango to putana kinayo. Et c'est moi qui ai dit que je suis un homme
qui a été
un homme qui a été un homme qui a été un homme
qui a été un homme qui a été
un homme qui
a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a
été un homme qui
a été un homme qui a été un homme qui a la reine de Saba.
De London, Mariam Zazi, Abo Mikala, Jean-Pierre Kizaba, Eli Valé,
Naba Wiki, nous sommes mon sac à main, Naba souffrance, nous sommes ma consolatrice, Mosali Rese, Nazarde de Dene, Kito Kolokola. Au capina par Kavirunga, au Mazé.
Fidèles auditeurs, c'est par ici que s'achève ce magazine de la vie au quotidien, au Capi Service consacré à l'amélioration des conditions des transports fluviales et lacustres en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Bob Landou était à la mise en onde, Tati Mapoukou a assuré la réalisation, Marcel Ngombo à la coordination. Tout le plaisir était pour nous de vous servir. Jeudi, Daniel Keshama au micro, sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Restez branchés sur la fréquence de la paix et excellentes conditions d'écoute des programmes sur Radio Okapi.